Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur notre antenne. Vous vous apprêtez à écouter une émission réalisée par les élèves de seconde SAPAT du lycée agricole Olivier de Serres dans le cadre d'un projet EMI, éducation aux médias et à l'information, réalisé en cours d'éducation socio-culturelle, un projet qui a reçu le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous aborderons des sujets de société, les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants. Des violences souvent invisibles, parfois silencieuses, mais qui touchent chaque année des milliers de victimes. Violences physiques, psychologiques, verbales ou sexuelles. Derrière ces mots, il y a des réalités humaines, des parcours de vie et des conséquences profondes. L'objectif des secondes était d'informer et sensibiliser. Parce que parler des violences, c'est aussi permettre de mieux les reconnaître, mieux les prévenir et mieux accompagner les victimes. Pour mieux comprendre ces réalités, ils ont rencontré Marine Arès, directrice adjointe du CIDFF Ardèche, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Au cours de cette émission, vous découvrirez les questions préparées par les élèves, leurs réflexions autour de ces sujets sensibles, ainsi que l'éclairage d'une professionnelle spécialisée dans le droit, l'accompagnement et l'information des victimes.
La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi, apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Bonjour, nous sommes une classe de seconde SAPAT, cela signifie service à la personne et au territoire, au lycée Olivier de Serres à Aubenas. Nous avons fait deux thématiques.
Et on aimerait bien vous en parler. La première est tout d'abord la violence faite aux enfants et la deuxième, c'est la violence faite aux femmes.
Pour parler de cette thématique, on reçoit Marine Arès du CIDFF de l'Ardèche.
Dans la violence, c'est brisé mon enfance, j'ai perdu l'existence et le sens. Dans les allées du parc Maurice Thorez, on a poignardé ma jeunesse.
Protéger les enfants ou protéger les coupables? Aujourd'hui, encore trop d'enfants subissent des violences. Parfois même de la part de leurs propres parents. Ceux qui sont censés les protéger. On imagine souvent que ça n'arrive qu'ailleurs. Mais la réalité est bien plus proche. Par peur ou par silence, ces situations continuent sans être arrêtées. Pourtant, ignorer le problème ne le fait pas disparaître. Alors une question se pose, est-ce qu'on agit enfin ou est-ce qu'on laisse encore souffrir des enfants?
Combien d'enfants sont victimes de violences par an en France? On a mis entre 300 000 et 400 000.
Oui, c'est le chiffre-là que tu viens de donner, effectivement. En introduction, vous avez parlé des violences dans un contexte familial. Et vous avez raison, parce qu'on sait que 9 enfants victimes sur 10 le sont de la part de leurs parents. Donc effectivement, le contexte de la famille, qu'on appelle un contexte intrafamilial, c'est un vrai sujet.
Combien d'enfants victimes de violences décèdent en France par an? On a répondu 50 à 60 environ.
Oui, c'est vrai, c'est les chiffres aussi sur lesquels on peut se baser. Sur 2024, de mémoire, c'est 60 enfants qui sont décédés dans leur famille. Donc c'est des enfants qui sont morts sous les coups ou par négligence. Et c'est vrai que c'est un chiffre qui est malheureusement assez stable d'année en année. On a pour usage de dire qu'en France, un enfant meurt tous les 5 jours dans sa famille, ce qui fait que finalement, la famille, c'est le milieu le plus dangereux pour un enfant. On a statistiquement plus de risques de mourir dans sa famille qu'écrasé par un camion en traversant la route quand on est enfant, contrairement à ce qu'on peut penser.
Dans quel cas considérer qu'un enfant est en danger?
Le danger auquel les enfants sont exposés, on appelle ça les questions liées à la protection de l'enfance. Et en fait, il y a une règle de base quand on travaille sur ces sujets-là, c'est que au moindre doute, le doute doit bénéficier aux enfants et à leur protection. Donc en fait, un enfant, il est en danger, bien évidemment, dès lors qu'il va dénoncer des formes de violence, comme par exemple des coups, des humiliations. Mais un enfant dont on constaterait, par exemple, qu'il est... qu'il ne mange pas à sa faim, qu'il n'est pas soigné, qu'il a des défauts d'hygiène parce qu'on ne s'occupe pas de lui, etc., on va considérer qu'il est en danger au sens légal. Et donc, on va devoir envisager de l'aider en faisant remonter cette situation aux autorités.
Quelles conséquences les violences ont-elles sur un enfant ?
Les conséquences, elles sont multiples sur les enfants. Il n'existe pas en santé de symptômes spécifiques du fait de vivre des violences ou d'être négligé. Il peut y avoir des conséquences sur la santé physique des enfants. Donc on peut avoir des enfants qui sont en mauvaise santé, qui prennent pas de poids ou prennent trop de poids, des enfants qui dorment mal, des enfants qui vont avoir des difficultés avec des maladies chroniques, par exemple, qui se développent et qui sont mal soignés. On peut avoir aussi des conséquences sur la santé plus psychique, plus morale, en fait, sur les enfants. Et ces conséquences, elles peuvent aller de syndrome d'anxiété, de stress, de troubles du sommeil, jusqu'à des symptômes plus graves, notamment des symptômes qu'on appelle le stress post-traumatique, qui sont des symptômes neurologiques liés au trauma. Le trauma, c'est les grandes peurs auxquelles on est exposé, notamment dans l'enfance, et ça va avoir des conséquences sur la santé psychique et plein de répercussions sur les enfants.
Que se passe-t-il après avoir signalé qu'un enfant était en danger ?
Alors, ça dépend. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux façons de signaler un état de danger pour un enfant. Soit on a des inquiétudes, mais on n'a pas forcément connaissance du fait que cet enfant il a pu être exposé à une infraction pénale. Dans ce cas-là, on va faire une information préoccupante au service administratif du département. Soit on a connaissance du fait que cet enfant il a pu être victime d'une infraction. Par exemple, un enfant qui explique avoir subir des gifles ou avoir vivre des coups de poing, etc. à la maison. Et là, on va saisir le procureur de la République. Dans tous les cas, les suites de ces remontées d'informations, elles appartiennent soit à l'autorité administrative, donc au conseil départemental, qui par exemple va mettre en place une enquête sociale, soit au service de la justice, donc les services du procureur de la République, qui pilotent les services des policiers et des gendarmes, qui, eux, peuvent mettre en place une enquête et voir ce qu'il en est.
Que faire dans les cas d'une extrême gravité, maltraitance ou violence sexuelle sur un enfant ?
Les situations de violence les plus graves, et vous avez raison, les violences sexuelles, elles font partie des violences les plus graves, et notamment, je pense au viol, qui est une infraction qui constitue un crime, donc ça fait partie des infractions les plus graves, doivent donner lieu à un signalement au procureur de la République ou à un appel au 17, c'est-à-dire aux policiers ou aux gendarmes, sans délai, c'est-à-dire rapidement.
Quelles sont les personnes qui s'occupent de tout ça ?
Il y a plein de personnes, au sens large, en fait, qui s'occupent de ces questions-là. Déjà, tous les professionnels, quels qu'ils soient, ça peut être des gens qui travaillent dans l'enseignement, ça peut être des professionnels de la santé, ça peut être des personnes qui travaillent, qui gardent des enfants, ont un rôle à jouer et donc ont l'obligation de se former et de faire remonter des inquiétudes si ils ou elles en ont. Après, plus directement sur ces questions-là, il y a bien sûr les associations d'aide aux victimes. Donc, par exemple, le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles où je travaille, mais il y a aussi d'autres associations d'aide aux victimes, dont le rôle est d'accompagner les victimes dans les démarches. Et puis, plus directement, on peut évidemment parler des policiers et des gendarmes, qui sont là pour entendre les enfants quand ils sont victimes, avec des modalités précises d'audition. Et les magistrats, donc les juges, qui sont là pour piloter ces enquêtes, pour aussi conduire les procès quand il y en a et rendre la justice.
Quels sont les 7 cas de maltraitance ?
Alors, les 7 cas de maltraitance, on peut parler des violences physiques, des violences psychiques, des négligences, des défauts d'hygiène, ça peut être des violences verbales, des violences psychologiques. Il n'y a pas forcément de limite à 7 à ma connaissance, mais vous allez peut-être pouvoir compléter ça. Et c'est vrai que ce qui est important de rappeler, en tout cas, c'est que les violences, contrairement à ce qu'on peut penser, elles ne sont pas uniquement physiques. Elles peuvent être psychiques, le fait de mal parler à un enfant, le fait de le dénigrer, le fait de ne pas l'encourager, ne pas l'accompagner dans sa croissance, dans son enseignement, c'est une forme de violence.
Nous, on avait mis physique, sexuelle, psychologique, maternelle et financière, négligence, abandon, privation, discrimination, exposition à un environnement violent.
Comment reconnaître les signes de maltraitance ?
Les signes de maltraitance, ils sont multiples. En matière de protection de l'enfance, on va raisonner sur la base de ce qu'on appelle un faisceau d'indices. C'est-à-dire que, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de signe spécifique du fait de vivre des violences. Mais un enfant, par exemple, on peut l'observer, il y aura des signes très différents selon son âge. Par exemple, si on regarde les bébés, un bébé qui vivrait des violences ou des négligences, c'est un bébé qui va beaucoup pleurer. Ou, à contrario, ne pas du tout pleurer, rester mutique, un peu renfermé sur lui-même. Un bébé qui peut aussi avoir ce qu'on appelle les troubles de l'attachement, donc un bébé qui a du mal à se séparer du parent sexuel, par exemple. Chez les enfants, quand ils grandissent, après, ça va être assez rapidement ce qu'on appelle des violences à l'encontre des autres enfants. Ça doit nous interpeller dans le comportement. Ça peut être aussi des enfants qui font preuve de cruauté à l'encontre des animaux, des insectes, des enfants qui se referment sur eux-mêmes. Des enfants qui, par exemple, aussi parfois étaient propres, ne mettaient plus de couches, mais de nouveau ont des problèmes de dyspareunie, encoprésie secondaire, c'est-à-dire le fait de ne plus être propre à des âges où ils l'étaient. Il y a plein de signes en fait, qui doivent nous interpeller, mais même un enfant qui donne le change, c'est-à-dire qui est tout parfait sous tout rapport, des bons résultats scolaires, on ne peut pas exclure en fait, qu'il cache quelque chose. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit toujours avoir en tête et finalement être en mesure de faire cette hypothèse auprès de tous les enfants ou adolescents qu'on rencontre.
Les auteurs de violences sur enfants sont-ils assez punis ? Et est-ce que la justice agit assez vite ?
Alors moi, mon travail dans une association d'aide aux victimes, c'est pas donner mon avis sur le fonctionnement de la justice ou de dire si les peines sont assez lourdes. En tout cas, le cadre juridique, il existe. Les sanctions, elles existent, c'est-à-dire que les violences faites aux enfants, elles sont prévues par la loi. Il y a un principe de légalité des peines qui veut qu'une peine, elle peut être prononcée si elle est prévue dans le code pénal. En l'occurrence, les violences faites aux enfants, elles sont dans le code pénal. Donc si elles sont commises par des adultes, c'est une circonstance aggravante si c'est un parent ou quelqu'un qui a un rapport d'autorité. Donc la loi, elle existe. Sur la question de l'application de la loi, de plus en plus, les juridictions, les magistrats sont mobilisés. Après, c'est aussi une question de moyens, c'est-à-dire que mener des enquêtes, ça prend du temps, il faut aussi des personnes pour le faire. Donc c'est tout ça qui nécessite qu'il y ait un bon partenariat et qu'il y ait un bon niveau de formation des professionnels qui sont là pour garantir la protection des enfants.
Pourquoi est-il important de sensibiliser aux violences faites aux enfants ?
Je pense que c'est primordial de sensibiliser les enfants et les adolescents pour leur expliquer que ce qu'ils vivent, c'est quelque chose qui tombe sous le coup de la loi, qui est interdit par la loi. Souvent, chez les enfants et les adolescents, il y a une croyance qui est que le parent ou les parents, ils ont des droits un peu différents des autres adultes au titre de l'autorité parentale et que, par exemple, le fait de mettre une claque, ça peut faire partie d'une façon d'éduquer ses enfants. Au regard de la loi, c'est faux. Donc notre travail, à nous, les juristes ou les associations, c'est d'expliquer que le parent, même s'il a une forme d'autorité éducative, ne doit pas avoir recours à des formes de châtiment, à des formes de violence, parce que ça, c'est interdit par la loi. Donc on sensibilise les enfants et les ados à ça. Et après, sensibiliser le grand public pour que les gens soient choqués par ça, parce que pendant longtemps, on n'a pas été choqués par les violences faites aux enfants, et il y a encore beaucoup de choses à faire, et que les gens, aujourd'hui, soient de plus en plus sensibilisés pour qu'ils se mobilisent et pour qu'on soit choqués, bouleversés par les violences faites aux enfants, et qu'on ne s'habitue pas à l'idée qu'en France, il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours dans sa famille, et puis que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, et ça doit nous heurter, ça doit nous mobiliser. Et enfin, en tant que professionnel, il faut qu'on soit formé au repérage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les bonnes lunettes, il faut qu'on puisse se dire un enfant ou un ado qui a tel comportement, qui présente tel signe, c'est quelque chose qui doit nous mettre la puce à l'oreille et qui doit nous conduire à lui proposer notre aide.
Quels sont les défis rencontrés par les professionnels lorsqu'ils doivent signaler une situation de maltraitance ?
Il y a plein de défis. Le premier défi, c'est de comprendre qu'on est face à une situation de maltraitance. Ça veut dire déjà, le premier défi, c'est d'être formé et d'arriver à se dire « Ok, je suis face à une situation qui tombe sous le coup de la loi et qui m'oblige, en tant qu'adulte, donc professionnel ou citoyen, citoyenne, à agir. Donc déjà, il faut bien comprendre ce que sont les violences et quelles sont nos obligations en tant qu'adulte et en tant que professionnel. Premier défi, c'est l'information, la formation. Le deuxième défi aussi, c'est savoir comment faire. C'est-à-dire, si je sais qu'il y a une violence, ok, mais comment je fais ? À qui je m'adresse ? Comment je procède ? Ensuite, prendre la décision de le faire. C'est-à-dire déconstruire la croyance qu'en signalant des violences faites aux enfants, on détruit des familles. Non. En fait, c'est les enfants qui vivent des violences dans leur famille. Ils vivent déjà dans une famille en ruine. Ils vivent déjà quelque chose qui n'est pas supportable. Et d'avoir en tête que le fait de signaler, ça ne va pas abîmer les familles. Au contraire, ça va aider les enfants. Donc, être à l'aise avec cette idée-là et s'en convaincre. C'est-à-dire se convaincre du fait qu'on est légitime à agir. Après, les défis de la suite du signalement, de la remontée d'informations, je dirais que c'est un défi qui est relatif. C'est-à-dire que quand on est un professionnel qui fait une remontée d'informations, le reste, ça ne nous appartient pas. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout. Ça veut dire que ce n'est pas nous, professionnels, qui faisons une remontée, qui décidons des suites à tout ça. C'est d'autres professionnels dont c'est le métier. Et donc, il faut être aligné avec cette idée, être au clair avec cette démarche-là pour finalement ne pas avoir peur de faire les choses.
Pourquoi certains enfants ont-ils du mal à dénoncer les violences commises par leurs parents ?
Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est que ce sont leurs parents. Et donc, il y a aussi, dans une famille, des sentiments d'affection et souvent d'amour. Donc, dénoncer un parent pour un enfant, c'est souvent faire avec l'idée de trahison. Donc, les enfants, eux, ils ont l'idée que, en fait, en dénonçant les violences, ils trahissent un parent. Donc, ça peut être ça, un jeu de ce qu'on appelle le conflit de loyauté. C'est un vrai sujet. Donc, c'est des choses qu'on essaye de travailler avec les jeunes, avec les ados, les enfants, en leur disant qu'en fait, dénoncer un comportement, c'est pas dénoncer un individu dans son entièreté. C'est pas parce qu'un parent, il est violent que c'est une mauvaise personne. Par contre, ces actes, ils tombent sous le coup de la loi et eux, ils sont punissables, ces actes. D'accord ? Donc, distinguer en fait les actes de l'entièreté de la personne. Et puis, les enfants aussi, ils ont peur de ne pas être entendus. Et parfois, ils ont raison d'avoir peur parce qu'on n'est pas toujours entendu quand on est une victime. Ça suppose d'être bien accompagné, d'être bien informé. Donc, il faut qu'on puisse entendre en fait les appréhensions des jeunes, des ados, des enfants pour pouvoir les rassurer, mais de façon lucide. On ne peut pas dire à un enfant, vas-y, parle et tout va bien se passer derrière. C'est quelque chose qui, parfois, est un parcours compliqué. Il faut qu'on soit lucide là-dessus, il faut qu'on les accompagne tel qu'il se doit, en fait.
On avait rajouté que si on avait besoin d'informations, il y avait le site SOS Enfance en Danger, que pour les numéros d'urgence pour ça, on avait le 114, au cas où il soit sourd ou malentendant. Et le 119 pour les enfants maltraités.
C'est des bonnes ressources et c'est des choses sur lesquelles il faut communiquer, donc je vous remercie. Après, à côté de ça, il y a aussi tous les adultes qui sont autour de nous, en fait, qui sont, qu'on peut aussi activer, qui sont de mieux en mieux formés. Ça peut être un professeur, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un d'autre de la famille qui puisse être en confiance. Et puis les associations aussi, de façon plus, je dirais, extérieure à la famille, qui peuvent être des relais, en fait. Donc tout professionnel, ça peut aussi être un ami, un jeune ou un enfant. Il y a aussi des situations où les jeunes et les enfants sont sensibilisés, apprennent que leurs amis vivent des violences et font remonter aux adultes. Donc de toutes les façons, en fait, inciter les jeunes à parler, les enfants à parler. Mais derrière, il faut être à la hauteur de leur confiance et de cette parole. Il y a un vrai défi là-dessus.
La violence faite aux femmes. Nous avons choisi cette thématique car ça nous concerne.
Et ça, du coup, ça concerne notre formation.
Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec 10 potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique. Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle. Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne,
deviendras-tu ma chienne? Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme.
Donc nous allons commencer les questions. Selon vous, où s'arrête la séduction et où commence le harcèlement ?
La limite entre ces deux termes, ça va être la limite de la loi. En fait, séduire quelqu'un, le draguer, etc., c'est pas interdit par la loi. Harceler, c'est-à-dire se montrer insistant ou insistante, et avoir, au regard de la loi, des comportements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de la situation de la personne qui en est victime, ça, ça tombe sous le coup de la loi. En clair, la question notamment de l'insistance, de la répétition, du mépris, de l'absence de consentement, ça va nous aider à distinguer les choses. Et c'est super comme question, parce que souvent, on nous dit « Oui, mais la lutte contre les violences faites aux femmes, ça va au final interdire la drague. » Non, pas du tout. On peut très bien tenter de se draguer les uns les autres, les unes les autres, c'est pas une difficulté. Mais à partir du moment où il y a un refus, ben, on s'en tient là.
Quelles peuvent être les conséquences psychologiques d'un viol sur une victime ?
Le viol, ça fait partie des infractions les plus graves. On parle, c'est quelque chose qui est criminel. Et effectivement, au niveau de l'impact sur la santé des personnes, la santé physique, mais aussi la santé psychique, c'est quelque chose qui est assez ravageur. On parle notamment de trauma. C'est-à-dire, le trauma, c'est quelque chose, c'est une façon dans laquelle notre cerveau réagit face à une grande peur. Et le viol, les agressions sexuelles, font partie des choses les plus inquiétantes, qui font le plus peur et qui ont le plus d'impact psychique. À titre de comparaison, si on fait l'IRM d'une personne qui a été victime de viol, on va trouver des points de comparaison et des similitudes avec l'IRM d'une personne qui revient d'un territoire de guerre, d'un soldat par exemple qui revient d'un territoire de guerre, et on va retrouver des conséquences similaires sur le cerveau. C'est vous dire à quel point c'est choquant, hyper traumatisant de vivre un viol. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, parce que ça va avoir des conséquences sur le comportement des victimes. Et si on n'est pas formé à ça, on va se dire que tout simplement, cette personne, elle est bizarre. Et si elle est bizarre, on ne va pas la croire. Et ce serait une grave erreur.
Quel rôle peuvent jouer les proches pour aider une victime ?
Le rôle des proches, il est important. C'est un rôle de soutien, d'abord d'écoute. Les proches, dans l'idéal aussi, le rôle, c'est de dire « je te crois ». Et ne pas remettre en doute la parole d'une victime, parce que je pense que les victimes, elles ont besoin qu'on les entende, qu'on les croit et qu'on leur dise qu'on les croit. Les proches, ils peuvent aussi avoir un rôle de témoin s'ils ont assisté à une agression. Et puis, ils peuvent avoir aussi un rôle de soutien, d'accompagnement pour orienter les victimes vers les relais possibles, notamment les associations d'aide aux victimes.
Que pensez-vous de la manière dont la justice traite les affaires du viol ?
Mon travail ici, qui représente une association d'aide aux victimes, c'est pas forcément de donner mon avis sur le fonctionnement de la justice. Ce qu'on peut dire toutefois, c'est que depuis les années 2019, 2020, depuis également le mouvement MeToo, il y a clairement un avant et un après, et qu'en France, dans les juridictions, mais plus globalement dans tous les services, il y a une prise en considération qui est quand même conséquente sur la question des violences faites aux femmes, et en particulier des violences sexuelles. À côté de ça, on voit que la loi, elle évolue aussi. Donc il y a, au-delà des juridictions, il y a aussi le législateur qui tient compte de ces questions-là et qui réforme la loi dans l'intérêt des victimes, notamment en intégrant la thématique du consentement, mais aussi en rappelant que, par exemple, le viol entre époux existe et que le devoir conjugal n'existe pas. Donc ça, c'est des choses qui ont été rappelées dernièrement en France. C'est une actualité qui a 1 ou 2 ans et c'est quelque chose qu'on doit rappeler, donc il y a quand même de réelles avancées.
Pourquoi est-il important de savoir dire oui ou non ?
C'est important de savoir que notre consentement en tant que femme, il est important et qu'on a le droit de donner notre avis. Après, on doit effectivement, dans l'éducation des filles et des garçons, expliquer l'importance de savoir dire oui, dire non, se positionner. Mais par contre, il faut être vigilant à se dire que la question de la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences sexistes et sexuelles ne passe pas par un changement de position de la victime. C'est-à-dire, le combat, il ne sera pas gagné si on apprend aux filles à plus dire oui ou plus dire non. Le combat, il est aussi gagné si on apprend aux garçons et aux hommes à s'arrêter, à respecter les limites et à respecter la loi, d'abord et avant tout. Donc, dire oui, dire non, oui, c'est important, notamment sur la confiance en soi, sur la capacité de se positionner face à quelqu'un ou face à une situation. Mais en aucun cas, la capacité de savoir dire oui ou non
ne vient dire quelque chose de la victime. Et on ne doit pas résumer les choses à ça aussi. Par contre, là où c'est capital, c'est d'apprendre aux personnes, et aux hommes en particulier, à écouter le oui et le non, et à se tenir à ça.
Pourquoi est-il important de parler du viol et du harcèlement à l'école ?
C'est important parce qu'aujourd'hui, les violences sexuelles dans la société, elles sont malheureusement très courantes, que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes dans la population en général, énormément de femmes en particulier, et beaucoup d'enfants dans leur quotidien. Sur la question des violences sexuelles faites aux enfants, on se rend compte que majoritairement, les enfants qui vivent des violences sexuelles, et en particulier dans leur famille, donc on va parler notamment de violences incestuelles, ce sont des enfants qui vivent des violences avant l'âge de 10 ans, et de façon répétée. Donc plus on en parle, plus on pose le cadre, plus on apprend aux enfants aussi à avoir conscience de leur corps, parler du consentement, la thématique effectivement du oui, du non, de mon corps m'appartient, et personne n'a le droit d'y toucher, plus on pourra faire un travail de sensibilisation efficace.
En quoi le harcèlement peut-il conduire à des viols plus graves ?
C'est ce qu'on appelle, dans les courants féministes, le continuum des violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire que des formes de violence comme le harcèlement, harcèlement qui peut être un harcèlement de rue ou du sexisme dans le quotidien, un peu banalisé, c'est quelque chose qui, s'il s'établit, s'il n'est pas sanctionné, s'il n'est pas dénoncé, eh bien, il peut conduire à des formes de violence plus graves. Parce qu'en fait, l'agresseur, il va évoluer dans un sentiment d'impunité. C'est-à-dire un sentiment de dire, là, j'ai harcelé la personne, je lui ai dit une injure sexiste, sans conséquence. Demain, je vais pouvoir aller plus loin, sans conséquence aucune. Et donc, lutter contre des formes de violence comme le harcèlement, le sexisme dans la rue, etc., c'est pas un caprice féministe, en fait. C'est de se dire, attaquer le sexisme et les violences sexistes à la base, pour éviter le continuum des violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire en arriver à des formes de violences beaucoup plus graves, et notamment le viol, les féminicides, la prostitution, etc.
Quels sont les obstacles majeurs auxquels une victime fait face lorsqu'elle doit entamer ses démarches médicales après un traumatisme ?
Dans ce genre de situation, les difficultés qu'elle peut avoir au niveau médical, c'est déjà de trouver un médecin. Ensuite, quand on a trouvé un médecin ou un psychiatre, de trouver quelqu'un qui soit formé à comprendre pas uniquement les lésions physiques, mais comprendre aussi que les violences sexistes et sexuelles, elles ont un impact traumatique très particulier et très grave, tel que je l'ai décrit tout à l'heure. Donc c'est de pouvoir trouver de la ressource formée, et quelqu'un qui puisse être de confiance sur la durée.
Comment réagir si une personne est atteinte de viol ?
Si on a connaissance dans notre entourage de quelqu'un, d'une amie par exemple, qui a été victime de viol ou qui nous parle de viol, la réaction qu'on préconise dans l'idéal, c'est vraiment une réaction soutenante où on lui dit, je le disais tout à l'heure, qu'on la croit. C'est-à-dire pas chercher à faire une petite enquête privée, c'est pas l'objectif. Les victimes de violences sexuelles, elles ont besoin qu'on leur dise qu'on les croit. Elles ont besoin d'être considérées, elles ont besoin d'être accompagnées et pas d'être remises en doute. D'accord ? Croire une victime, ce n'est pas remettre en compte la présomption d'innocence des auteurs, puisque ça, c'est un droit fondamental en France, qui est la présomption d'innocence. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la présomption d'innocence à l'égard des auteurs mis en cause qu'on ne peut pas accorder une présomption de bonne foi aux victimes. Donc on peut lui dire « je te crois, je t'accompagne, je te soutiens, je serai toujours là » et le parcours va être compliqué. Et on va te soutenir pour pas que tu sois seule.
Quelles sont les limites actuelles au système judiciaire qui explique que beaucoup de plaintes soient classées sans suite ?
Oui, effectivement, c'est une réalité statistique. Il y a beaucoup de classements sur les plaintes pour viol ou violences sexuelles de façon générale. Ça peut s'expliquer de plein de façons, notamment aussi des ressources nécessaires pour faire les enquêtes, du niveau de formation des personnes qui enquêtent et qui conduisent les procédures. Il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi, encore aujourd'hui, en France et en Europe, ce qu'on appelle la culture du viol et un défaut de formation sur les violences sexistes et sexuelles et sur le continuum des violences. C'est-à-dire de considérer que les violences sexuelles sont parmi les violences les plus graves et qu'elles appellent une réponse à la hauteur. Donc, en clair, mettre le paquet derrière ça. Donc, les choses, elles évoluent favorablement, mais il y a effectivement un ensemble de raisons qui font qu'aujourd'hui, il y a un taux de classement qui est assez conséquent et qui questionne. Les choses, elles évoluent aussi. Je pense que le vrai enjeu aujourd'hui, alors qu'il a pu être, il y a 10-15 ans, la libération de la parole des victimes, aujourd'hui, il est la qualité de l'écoute de la parole des victimes. En fait, les victimes, elles parlent. Je pense qu'elles parlent, je pense qu'elles crient même leur douleur, les violences dont elles sont victimes. Après, il faut qu'on sache les entendre et les accompagner de façon adaptée, en fait, à la hauteur de leurs besoins.
j'étais un homme, je pisserais contre les murs. Je draguerais les darons, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière. Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire. Je serais ton indépendance, ton investissement à long terme. On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant. Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments. Je ferais des promesses que je ne saurais tenir. Te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Triste aléa du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, ah, ah, ouh. 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 Aveuglé, j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère. Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman. Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Celui qui prend soin de sa mère, qui se conduit en gentleman. Des hommes de valeur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Oh, oh. Si j'étais un homme, si j'étais un homme, mais je ne le suis pas.
Les violences faites aux femmes et aux enfants. Cette émission est à l'initiative des secondes SAPAT du lycée agricole Olivier Dessert que nous remercions. SAPAT, c'est service à la personne et au territoire. Un grand merci également à leur invité, Marine Arès du CIDFF Ardèche, à Nathalie Martin, leur enseignante d'éducation socio-culturelle, et à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a soutenu ce projet d'éducation aux médias et à l'information. Cette émission est disponible également en podcast sur inforc.fr. Et pour toute question sur vos droits, n'hésitez pas à contacter le CIDFF Ardèche.